Voilà, bonjour à tous. La semaine dernière, on se trouvait avec Céline dans un mariage, dans un château, où il y avait une roseraie magnifique. Hein. Les roses étaient très belles, mais surtout l'odeur qui s'exhalait était extraordinaire. Hein. Et ces derniers temps, j'ai été frappé dans mes lectures bibliques par le thème de l'odeur et du parfum qui parcourt toute la Bible. Hein. Et j'aimerais partager ce sujet avec vous ce matin. Alors, le rôle du parfum, tout d'abord, est quand même particulier. Donc, il manifeste une présence d'une personne, d'un objet. Cette odeur peut même rester un petit peu après le départ de l'objet ou de la personne. L'odeur peut rester dans la mémoire également. Il valorise un lieu, une chose. On parlait de la rose. C'est beau de voir une rose, mais si on a l'odeur en même temps, ça rajoute évidemment quelque chose. Il est de l'ordre du partage. C'est quelque chose qui est donné à tous, sans distinction. Il crée une sorte de connivence, de communion entre les personnes qui se trouvent là. Et le parfum est quelque chose d'insaisissable et sans forme. Il traduit une sorte de médiation entre le matériel et le spirituel. Et c'est pour ça que le parfum a été toujours très employé dans les religions, hein, depuis l'Antiquité. Alors, un petit mot sur la place du parfum à l'époque biblique. À l'époque antique, donc, tous les peuples de l'Antiquité avaient une grosse consommation de parfum. En particulier les Égyptiens. Les corporations de parfumeurs d'Alexandrie étaient célèbres dans tout l'Orient et se sont poursuivies même pratiquement jusqu'à la fin de l'Empire romain. Donc il y avait une variété déjà extraordinaire de parfums qui étaient utilisés. L'utilisation est tournée autour de deux usages principaux. D'abord un usage religieux. Tous les cultes, toutes les divinités étaient adorées par une offrande de parfums. Utilisation aussi pour l'embaumement, en particulier dans le contexte de l'Égypte, où on utilisait beaucoup d'aromates et de parfums différents. Et puis après, un usage profane qui était développé. C'était un moyen de séduction féminin, masculin, un agrément de la vie quotidienne, dans les logements en particulier. Les Grecs et les Romains ont repris à leur compte toute cette culture du parfum, en mettant davantage l'accent sur le culte du corps qui se développe à l'époque, qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs notre époque actuelle. Et les Romains avaient mis en place au-delà des soucis d'hygiène, des vertus thérapeutiques, et les Romains utilisaient énormément de parfums sous forme de bains, sous forme d'aspersion, etc. Il y avait une très grosse consommation à l'époque. Au-delà donc de cet aspect profane, les objectifs religieux du parfum restent partout prédominants en Orient et traduisent une volonté de se rapprocher des dieux, de fuir la mort et de rechercher l'immortalité. Les techniques restent assez rudimentaires. On brûle des écorces, des résines, des racines, donc c'est de la fumigation, hein, c'est des poudres qu'on met sur du feu. Et on commence à faire des parfums sous forme d'onguents où on mélange donc ces éléments qu'on broie avec de l'huile ou avec des matières grasses. Le plus utilisé à l'époque était l'encens, qui était utilisé pratiquement dans toutes les religions de l'époque. Mais on trouve aussi la cannelle, la myrrhe, l'aloès, la canthe, le safran, le roseau aromatique. Donc le contexte biblique de l'Orient s'inscrit dans un monde où le parfum est extrêmement répandu, déjà. Et donc je vous propose une réflexion autour de quatre axes. Hein. Premièrement, le parfum dans le culte du peuple d'Israël. Il joue un rôle très important. On va passer pas mal de temps sur cette partie-là. Le parfum comme réjouissance et partage, c'est une dimension qu'on retrouve aussi dans la Bible. Le parfum dans les rites funéraires des Juifs. et le parfum dans le Nouveau Testament avec, comme on va le voir, une amplification de sa signification avec l'œuvre de Jésus. Alors, tout d'abord, le parfum dans le culte du peuple d'Israël. Donc, la loi de Moïse prévoit que le peuple prépare un parfum odoriférant qui était utilisé dans le sanctuaire. Donc, on peut démarrer le PowerPoint. Donc, dans Exode 30, versets 34 à 38, on a la composition de ce parfum. Donc, il est dit, l'Éternel dit à Moïse, prends des aromates, du stacté. Alors, j'ai un petit peu essayé de représenter cela, si ça marche. Voilà, donc voilà le stacté. Donc, c'est une résine qui est produite par un très bel arbre qui pousse donc en Syrie, en Arabie, en Asie mineure, un très bel arbre avec des fleurs blanches qui sentent très bon. Et donc on récupérait la résine qui coulait depuis le tronc de l'arbre, on faisait des incisions pour le récupérer. Donc premier élément, donc le stacté. Deuxième élément, l'ongle odorant. Donc là il s'agit de l'opercule du strombe, c'est un coquillage qu'on trouvait dans la mer Rouge. Et donc la combustion de l'opercule produit une bonne odeur. Troisième élément, le galbanum. Donc c'est tiré d'une plante herbacée qui pousse sur les hauts plateaux d'Asie mineure et d'Iran, qui a un goût acre, le goût n'est pas très bon, par contre c'est un fixateur pour les autres parfums, et ça amplifie en fait le goût des autres parfums. Donc troisième élément, et quatrième élément, c'est l'encens qu'on a évoqué, qui était déjà très, très utilisé à l'époque, donc qui vient d'un arbre, donc le Boswellia, qui pousse dans des régions désertiques ou semi-désertiques, en Arabie, au Yémen, en Somalie, on récupère aussi la résine à partir du tronc de l'arbre. Entre parenthèses, tous ces parfums sont toujours produits et utilisés aujourd'hui, à notre époque. Donc, il était demandé donc, de prendre donc, ces aromates. Donc, tu prendras du stacté, de l'ongle odorant, du galbanum et de l'encens en partie égale. Tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur. Il sera salé. Toutes les offrandes étaient faites avec du sel. C'était le signe de la purification. Il sera pur, il sera saint. Donc, à part pour Dieu. Tu le réduiras en poudre et tu le mettras devant le témoignage dans la tente d'assignation. Alors j'ai repris un petit peu le plan du tabernacle pour qu'on s'y reconnaisse un petit peu. Donc il y avait la tente avec le parvis qui se trouve autour. Dans le parvis, on avait l'autel des holocaustes où on offrait les sacrifices. Derrière, c'était la cuve de purification dans laquelle les sacrificateurs se lavaient pour rentrer dans la tente. La tente elle-même comprenait deux parties, le lieu saint, derrière le premier voile, et dans le lieu saint, donc, il y avait le chandelier, c'est le numéro 11, la table des peines de proposition, le numéro 10, et devant le lieu très saint, il y avait un autel des parfums. C'est là qu'on brûlait le parfum. Et derrière le deuxième voile, il y avait donc le tabernacle avec le propitiatoire, c'est les deux anges qui sont au-dessus. Et il est dit que c'est là que Dieu se rencontre avec l'homme. Donc le parfum était en quelque sorte l'autel le plus avancé, le lieu de la rencontre entre Dieu et l'homme. Donc tu le réduiras en poudre et tu le mettras devant le témoignage, donc, c'est-à-dire devant le tabernacle, devant le lieu très saint, dans la tente d'assignation où je me rencontrerai avec toi, ce sera pour vous une chose très sainte. Vous ne ferez point pour vous de parfum semblable dans les mêmes proportions. Vous le regarderez comme saint, est réservé pour l'Éternel. Quiconque en fera de semblable pour le sentir sera retranché de son peuple. » Donc, un parfum unique, réservé à Dieu. Alors, il est dit que ce parfum doit être offert sur l'autel des parfums. Donc, on a une image en haut à gauche de cet autel. Je reprends dans Exode 30 à la description de cet autel. Tu feras un autel pour brûler des parfums. Tu le feras de bois d'acacia. C'était le bois qu'on trouvait dans le Sinaï, bois très dur, imputrescible. Sa longueur sera d'une coudée, sa largeur d'une coudée. Il sera carré, comme on le voit, et sa hauteur sera de deux coudées. Tu feras des cornes qui sortiront de l'autel. Les cornes manifestent la puissance à cette époque-là. Tu le couronneras d'or pur, qui évoque la royauté. Le dessus, les côtés tout autour, et les cornes, et tu mettras une bordure d'or tout autour. Tu feras au-dessus de la bordure deux anneaux d'or, aux deux côtés, tu en mettras aux deux côtés pour recevoir les barres qui serviront à le porter. Donc on le voit avec les barres, qu'on enlevait évidemment lorsqu'il était positionné dans le tabernacle. Tu feras les barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche du témoignage, en face du propitiatoire, c'est-à-dire la partie avec les deux anges qui se trouvent sur le tabernacle, où je me rencontrerai avec toi. Aaron y fera brûler du parfum odoriférant, il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Il en fera brûler aussi entre les deux soirs lorsqu'il arrangera les lampes. C'est ainsi que l'on brûlera à perpétuité du parfum devant l'Éternel parmi vos descendants. Donc, on faisait brûler le parfum deux fois par jour. Donc, le matin, le sacrificateur prenait des braises qui étaient sur l'autel des holocaustes, les apportait sur l'autel des parfums, et donc faisait brûler le parfum. Il y a évidemment tout un symbolisme. Les braises représentent le sacrifice. C'est déjà une préfiguration du sacrifice de Jésus sur la croix. C'est en vertu du sacrifice que le sacrificateur pouvait présenter le parfum. Et donc, avec ces braises, il déposait la poudre du parfum et qui brûlait. Donc, le matin et le soir, à perpétuité, donc c'était quelque chose qui avait lieu tous les jours. Donc c'est très important de voir que Dieu reçoit ce parfum comme un parfum de bonne odeur, c'est-à-dire que Dieu est favorable à l'homme, c'est une image du salut. L'homme est séparé de Dieu, notre péché nous sépare de Dieu, notre péché est en quelque sorte une mauvaise odeur, mais Dieu nous reçoit en vertu du sacrifice comme un parfum de bonne odeur. C'est une image qui est magnifique, de la prière, de l'adoration, de la confiance que l'homme apporte à Dieu, ce que fait le sacrificateur. Et c'est une image de l'accueil de Dieu qui nous reçoit comme accueil favorable. Il est souvent dit que, il est souvent parlé des parfums de bonne odeur, on va y revenir, mais cette bonne odeur, ce n'était pas l'odeur du sacrifice en lui-même, c'était l'odeur du parfum qui venait devant le tabernacle. Il est précisé, donc, vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, et vous n'y répandrez aucune libation. Cet autel des parfums ne servait qu'au parfum, aucune autre utilisation. Une fois, chaque année, Aaron fera des expiations sur les cornes de l'autel avec le sang de la victime expiatoire. Il y sera fait des expiations une fois chaque année. Parmi vos descendants, ce sera une chose très sainte devant l'Éternel. Une fois par an, donc le jour des expiations, donc il y avait un sacrifice qui était fait donc sur l'autel des holocaustes. Et le sang était apporté à l'intérieur du tabernacle, et le souverain sacrificateur pénétrait dans le lieu très saint. Il a porté le sang sur au niveau du propitiatoire, mais il a porté aussi le sang sur les cornes de l'autel des parfums. Et il était dit à cette occasion, Aaron offrira son taureau expiatoire, il fera l'expiation pour lui et pour sa maison, il égorgera son taureau expiatoire, donc sur l'autel des holocaustes, il prendra un brasier plein de charbon ardent, ôté de dessus l'autel devant l'Éternel, donc l'autel des holocaustes, et de deux poignées de parfum odoriférant en poudre, il portera ces choses au-delà du voile. Il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel, afin que la fumée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage, et il ne mourra pas. Donc c'était une expiation pour le peuple, et donc il y avait une fois par an donc cette expiation pour tout, en fait, pour tout le sanctuaire, dont l'autel des parfums. Et on voit que là encore, c'est le salut qui est représenté. Grâce au taureau expiatoire, grâce au sacrifice, l'homme s'approche de Dieu et il ne meurt pas en présence de Dieu, mais il est reçu de façon favorable comme un parfum de bonne odeur. Cette image est magnifique. Dieu nous reçoit comme un parfum de bonne odeur. Donc l'autel des parfums, et le parfum est vraiment au centre du culte d'Israël. Lieu de rencontre entre Dieu et son peuple, en face du voile, devant le propitiatoire, image de la prière, de l'adoration, de la consécration de l'homme vers Dieu, et image de la grâce de Dieu envers l'homme. Dieu pardonne le péché de l'homme, il le reçoit comme un parfum de bonne odeur. Et on a là vraiment une préfiguration de l'œuvre de Jésus-Christ dans ce sanctuaire. Donc si on reprend donc le parfum comme reconnaissance, adoration et louange envers Dieu dans la loi de Moïse, l'autel des parfums qu'on vient de voir, le sacrifice reçu par Dieu comme offrande de bonne odeur. Donc ça c'est une extension donc on peut voir au-delà de ce qu'on vient de décrire dans le culte. Hein. L'Ancien Testament présente de très nombreuses fois les sacrifices comme une offrande de bonne odeur. Cela apparaît déjà du temps de Noé, après la sortie de l'arche. Noé offre un sacrifice. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. » parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. » Donc Dieu fait alliance avec les hommes après le déluge et reçoit le sacrifice comme un parfum de bonne odeur. Le sacrifice est le lieu de la grâce et de la réconciliation de l'homme avec Dieu. Tout le long de l'Ancien Testament, il est répété à de très nombreuses fois que les sacrifices sont d'une agréable odeur à l'Éternel, que ce soit les sacrifices sur l'autel des holocaustes, que ce soit des offrandes, que ce soit des libations, tout ce qui concerne le sacrifice est vu et présenté de cette façon-là. On revient sur la signification qu'on a donnée. Tout cela servait à montrer le pardon de Dieu, à reconnaître nos fautes, puisqu'il fallait sans cesse offrir des sacrifices, mais à vivre, à reconnaître le pardon de Dieu qui nous accueillait, qui nous accueille comme un parfum de bonne odeur. Et j'ai été souvent frappé par cette expression, parce que quand on voit des sacrifices, on brûle de la viande sur le feu, ça ne paraît pas quelque chose de très agréable. Mais c'est en vertu de cela, en vertu de cette mort, quelque part, que Dieu fait grâce, mais il le fait par le moyen du parfum. dont on vient de parler. Et les prophètes de l'Ancien Testament étendent cette notion un petit peu au-delà, et ils parlent déjà du salut, du rachat du peuple d'Israël comme un parfum de bonne odeur. Je cite Ézéchiel qui nous dit « Car sur ma montagne sainte, sur la haute montagne d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel, là toute la maison d'Israël, tous ceux qui seront dans le pays me serviront. Là je les recevrai favorablement. Je rechercherai vos offrandes, les prémices de vos dons et tout ce que vous me consacrerez. Je vous recevrai comme un parfum d'une agréable odeur quand je vous aurai fait sortir du milieu des peuples et rassembler des pays où vous êtes dispersés, et je serai sanctifié par vous aux yeux des nations. » On a une annonce prophétique du rétablissement d'Israël à la fin des temps, et Dieu rétablit son peuple qu'il reçoit comme un parfum d'une agréable odeur. C'est vraiment quelque chose qu'on retrouve tout le long de l'Ancien Testament. Alors, on trouve également l'offrande de parfum rejetée par Dieu dans l'Ancien Testament. Il y a l'offrande de consécration prévue par la loi de Moïse, qu'on vient de voir, mais on voit des offrandes de parfums qui sont rejetées par Dieu dans l'Ancien Testament. Alors il faut voir, comme on l'a dit, que l'offrande de parfums était très courante dans les différents cultes païens de l'époque, et celle qui concerne donc le culte du peuple d'Israël devait être différente. L'offrande de parfum devait représenter donc un engagement à obéir au commandement de Dieu, à se conformer à sa volonté, à se consacrer à lui, tout en reconnaissant nos propres fautes. Donc cela impliquait un strict respect des règles que Dieu avait données dans la loi de Moïse. Dans le cas contraire, on voit que Dieu rejette cette offrande. Il en est de même pour nous aujourd'hui. L'adoration, la prière symbolisée par le parfum implique aussi cette attitude d'obéissance, de consécration et d'écoute. Ce n'est pas un rite, mais c'est le symbole d'un engagement envers Dieu. Alors, on a plusieurs exemples d'offrandes de parfum établies en dehors des commandements de Dieu et rejetées par lui. Dans tous les cas, l'auteur de l'offrande semble s'attribuer les mérites de l'offrande à lui-même, et il paraît plus tourné vers lui-même, vers ses prérogatives, que vers Dieu. On cite trois exemples. Le premier, c'est les fils d'Aaron, Nadab et Abihu. Il est dit, les deux fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma, ils moururent devant l'Éternel. Donc on a du mal peut-être à comprendre les motivations. Une chose est certaine, c'est que seul le souverain sacrificateur devait présenter ses parfums. Et il est dit qu'ils ont amené du feu étranger, donc est-ce qu'ils ont pris des braises provenant d'une autre source que l'autel des holocaustes, on ne sait pas. En tout cas, ils ont voulu avoir une prérogative qui n'était pas la leur, et donc ils ont été consumés. Ça paraît très sévère pour nous aujourd'hui. Ça nous rappelait que s'approcher de Dieu devait se faire en fonction de la grâce. En dehors de la grâce, on est immédiatement consumé, l'homme ne tient pas devant Dieu. On a un autre exemple qui est la révolte de Corée, Dathan et Abiram. Ils se révoltent contre Moïse, ils se révoltent en fait contre Dieu, donc c'est des princes d'Israël, 250 personnes parmi les princes, parmi les responsables du peuple, qui se révoltent contre Moïse. Et donc Moïse leur dit, c'est Dieu qui va trancher. Offrez du parfum, les 250 hommes, et moi et Aaron, on offrira aussi le parfum, et Dieu choisira celui qui marche avec lui. Ils ont offert le parfum, et le feu de Dieu est descendu, et ils ont été consumés, les 250 hommes. Ils ne se sont pas présentés devant Dieu en vertu de la grâce, mais ils sont présentés devant Dieu par eux-mêmes et dans un esprit de révolte contre Dieu. Le peuple d'Israël qui était là, qui assistait à ça, s'est révolté en voyant ce qui s'était passé. Et il est dit dans le texte qu'une plaie a commencé, c'est-à-dire une maladie, une épidémie, quelque chose qui allait détruire le peuple. Et à ce moment-là, Aaron a offert le parfum. Et il est dit que c'est plutôt le sacrificateur Éléazar, c'est pas Aaron, prit les brasiers d'airain qu'avaient présenté les victimes de l'incendie. Non, c'est pas là, c'est plutôt après. Oui, c'est à Aaron. Moïse dit à Aaron, prends le brasier, mets-y du feu de dessus l'autel, pose-y du parfum, va promptement vers l'assemblée et fais pour eux l'expiation, car la colère de l'Éternel a éclaté, la plaie a commencé. Aaron prit le brasier, comme Moïse avait dit, et courut au milieu de l'assemblée. Et voici, la plaie avait commencé parmi le peuple. Il offrit le parfum et il fit l'expiation pour le peuple. Il se plaça entre les morts et les vivants et la plaie fut arrêtée. Donc on voit que l'offrande du parfum a servi là d'intercession pour le peuple et a mené le salut du peuple dans cette situation. Donc d'un côté, l'offrande a entraîné le feu de l'Éternel, parce qu'elle a été faite en dehors de la grâce, elle a été faite en dehors de la confiance en Dieu. De l'autre, l'offrande a mené le salut, parce qu'elle a été faite dans l'attente du salut de Dieu. On a un autre exemple qui est le roi Ozias. Il est dit qu'il a, à un moment donné, il a voulu offrir lui-même le parfum dans le temple. Et il s'est senti pouvoir prendre cette prérogative en tant que roi d'Israël. Et donc les sacrificateurs se sont opposés dans le temple parce que ce n'était pas son rôle. Et il a été touché par la lèpre. Et le roi Ozias a été lépreux toute sa vie et n'a pas pu exercer son rôle de roi. Il a vécu à l'écart du camp jusqu'à la fin de sa vie. Donc je pense que c'est un avertissement pour nous. On doit se présenter devant Dieu dans notre prière, dans notre adoration, dans un esprit d'obéissance, de consécration, d'humilité, d'écoute. Et c'est là que Dieu peut agir. Toute autre attitude est rejetée par Dieu. Enfin, dans l'offrande de parfum rejetée par Dieu, il y a évidemment l'idolâtrie qui est toujours présente. C'est l'autre grande tentation du peuple, offrir des parfums à d'autres dieux. On a dit que les cultes païens utilisaient beaucoup de parfums aussi. Forte tentation dans ce contexte. Et ce péché revient constamment dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire que l'adoration due à Dieu est détournée vers d'autres choses. Et bon, c'est un avertissement aussi pour nous aujourd'hui. Donc je ne vais pas revenir sur tous les passages qui évoquent l'idolâtrie du peuple d'Israël. Ils sont très nombreux. Mais chaque fois, il est dit que le peuple d'Israël offrait du parfum à Baal, à Astarté, aux Zodiacs, à l'armée des cieux, etc. Et ça revient constamment. Et le prophète Ézéchiel, qu'on a cité, disait « Ce peuple n'a cessé d'offrir des parfums à d'autres dieux. » Donc c'est une autre tentation qu'on peut trouver. Voilà, donc on a vu l'offrande telle que Dieu la veut, on a vu l'offrande rejetée par Dieu sous deux formes différentes, hein, ou s'approprier quelque part l'offrande hors de la grâce ou alors l'idolâtrie. Voilà, je poursuis donc sur la deuxième partie, qui est le parfum comme image de réjouissance et de partage. Voilà, donc ça c'est, je dirais, quelque chose qu'on retrouve aussi, en particulier dans le Cantique des Cantiques, on peut citer, « Tandis que le roi est dans son entourage, mon nard exhale son parfum. Mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe qui repose entre mes seins. Mon bien-aimé est pour moi une grappe de troène des vignes d'Engedi. Que de charme dans ton amour, ma sœur, ma fiancée, comme ton amour vaut mieux que le vin, et combien tes parfums sont plus suaves que tous les aromates. » Donc on voit le parfum était présent dans la vie quotidienne. Dans d'autres passages, il est question du parfum qui réjouit le cœur. L'huile et les parfums réjouissent le cœur et les conseils affectueux d'un ami sont doux. Ça, c'est dans les proverbes. Donc, on a de nombreux passages où on est appelé à accueillir aussi cette beauté de la création que Dieu a donnée. C'est un sujet de réjouissance. On parlait des roses, de la roseraie qui embaumait aussi. Ça fait partie de la création de Dieu et ça fait partie de la beauté qu'on est appelé à vivre également dans la reconnaissance envers Dieu. Donc on a aussi cet aspect qui revient. Troisième aspect, donc c'est le parfum dans les rites funéraires. Alors, l'importance des aromates dans les rites funéraires de l'Israël ancien. Donc, l'utilisation des parfums était également très importante autour de la mort. Donc, on voit par exemple, on a quelques descriptions des funérailles de rois. On a le roi Asa, par exemple. Il est dit qu'on l'enterra dans le sépulcre qu'il s'était creusé dans la ville de David. On le coucha sur un lit qu'on avait garni d'aromates et de parfums, préparé selon l'art du parfumeur, et l'on en brûla en son honneur une quantité très considérable. Donc, autour de la mort, on mettait beaucoup d'aromates, justement, pour éviter l'odeur, certainement, et ralentir aussi la décomposition. À noter que ces rites étaient refusés aux défunts, considérés comme indignes. On a le roi, par exemple, Joram, qui avait une vie qui est loin de Dieu et qui était considérée comme indigne. Il est dit qu'il mourut dans de violentes souffrances et son peuple ne brûla point de parfum en son honneur comme on l'avait fait pour ses pères. Petite remarque donc sur les rites funéraires de l'époque, pour dire qu'on ne pratiquait pas la crémation, il n'y avait que l'inhumation en Israël. La crémation était prévue dans la loi de Moïse pour des cas particulièrement graves. Et dans tous les cas, c'était vu comme quelque chose d'indigne ou comme une punition. Ensuite, pour des raisons également liées à la loi de Moïse, on ne pratiquait pas d'embaumement, proprement dit, comme en Égypte, puisque pour embaumer, il faut vider le sang. Et donc le sang était sacré, évidemment, on ne le pratiquait pas. Donc l'inhumation et la conservation du corps pendant les funérailles étaient considérées comme essentielles et manifestaient certainement un pressentiment de l'éternité. Il est dit dans Ecclésiaste que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement à la fin. Alors à l'époque de Jésus, on est à peu près sur les mêmes pratiques que dans l'Ancien Testament. Donc les cadavres étaient loin d'aromates divers et enveloppés dans des bandelettes, justement pour que le produit puisse agir à ce moment-là. On le voit au moment de l'ensevelissement de Jésus. Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret et par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme cela est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. À noter que l'ensevelissement de Jésus a été précédé de deux actes prophétiques. On a deux récits de femmes qui versent du parfum de grand prix sur la tête ou sur les pieds de Jésus. Et on voit l'importance de cet acte. Donc, comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard de grand prix. Ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Elle a fait, donc un peu plus tard, donc vous savez que les disciples disent « mais on aurait pu vendre ce parfum pour les pauvres, etc. » Et Jésus dit « elle a fait ce qu'elle a pu, elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. » Je vous dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Donc après, on a le récit aussi de Marie qui verse des parfums sur les pieds de Jésus, qui les essuie avec ses cheveux. Et Jésus a la même attitude, il dit « Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture ». Donc le versement du parfum à grand prix sur la tête et les pieds de Jésus manifeste également l'humilité, la consécration, la confiance totale de ces deux femmes envers Jésus. Cette attitude d'adoration est citée en exemple par Jésus, mais on voit qu'elle n'est pas comprise par les disciples qui se trouvent là à ce moment-là. Et nous retrouvons ici les mêmes principes que pour l'offrande du parfum qu'on a vu précédemment. Le versement du parfum comme acte d'humilité, de confiance, de consécration, et l'accueil de Jésus qui le reconnaît comme un bienfait et comme un parfum de bonne odeur, comme on a pu le voir par ailleurs. À noter par ailleurs le caractère évidemment prophétique de cet acte qui annonce ce que Jésus va faire. Il est probable que les deux femmes en question n'ont pas saisi nécessairement toute la portée de cet acte à ce moment-là. Alors cela nous renvoie directement dans l'évolution de la signification du parfum dans le Nouveau Testament, qui est considérablement étendue. Et on aborde donc le quatrième point, le parfum dans le Nouveau Testament, avec deux aspects. Donc le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, qui est présenté comme le sacrifice suprême de bonne odeur. Et de façon réciproque, on retrouve toujours ces deux mouvements entre Dieu et l'homme. Et en réponse, la prière des saints est symbolisée par le parfum offert devant Dieu. On est vraiment dans cette communion, dans cette relation qui se fait par l'intermédiaire du parfum. Alors le sacrifice du Christ comme parfum de bonne odeur, nous sommes sauvés, rachetés par Dieu par le seul moyen du sacrifice de Jésus-Christ, offrande de bonne odeur devant Dieu, devant le Père. Les sacrifices de l'Ancien Testament, dans le tabernacle, étaient un symbole, étaient une préfiguration de ce sacrifice, de cette œuvre de Jésus-Christ. Dans Éphésiens, il est dit « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Grâce à ce sacrifice, nous sommes rendus favorables à Dieu comme enfants bien-aimés. Nous devenons une bonne odeur pour Dieu. Et nous sommes appelés en retour à devenir les imitateurs de Dieu, comme il est dit dans ce texte, c'est-à-dire à nous conformer à lui dans l'obéissance, la consécration et la confiance. Et cette attitude devient elle-même une bonne odeur devant Dieu. Enfin, deuxième aspect qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, c'est le parfum comme image de la prière des saints. Donc là, c'est dans l'Apocalypse qu'on retrouve cette chose-là. Alors cette idée de parfum comme la prière existait déjà dans l'Ancien Testament. Le psalmiste nous dit, psaume 141, « Que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. » C'est-à-dire l'offrande du parfum que le sacrificateur opérait le soir dans le tabernacle, puis dans le temple, puisque le temple de Jérusalem était conçu de la même façon que le tabernacle. Et puis dans l'Apocalypse, on se retrouve à ce moment-là de façon prophétique devant le trône de Dieu à la fin des temps. Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Donc c'est Jésus qui est offert. Il avait sept cornes et sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants, qui représentent la création, et les 24 vieillards, qui représentent l'alliance de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, les 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres, se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. On retrouve le tabernacle, mais à ce moment-là, étendu devant le trône de Dieu lui-même. La prière des saints est présentée comme une coupe d'or remplie de parfums, et cela fait référence aussi à l'Ancien Testament, après la dédicace du tabernacle, les 12 princes des tribus apportent des coupes remplies de parfums. On voit qu'il y a des liens très directs entre tout cela. Et un peu plus loin dans l'Apocalypse, il est dit « Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. » On a donc l'autel des parfums qui réapparaît devant le trône de Dieu lui-même. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre, et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. L'image du trône de Dieu donc ressemble au tabernacle, offrande des parfums sur un autel d'or, non pas devant le propitiatoire, mais devant Dieu lui-même. Le parfum est encore directement associé à la prière des saints. L'encensoir est rempli du feu de l'autel, c'est-à-dire d'une image du sacrifice de Jésus, sur la croix, jeté sur la terre, il accomplit le plan de Dieu. Et je trouve que cette image est un grand encouragement pour nous, dans notre marche avec Dieu. Notre obéissance, notre consécration, notre confiance envers lui a une grande importance devant Dieu, a du prix et quelque chose de précieux, comme un parfum de bonne odeur qui monte vers Dieu. Je pense qu'on n'est pas toujours conscient de cette portée de notre marche avec Dieu. Et notre vie de prière également est là vue comme essentielle. C'est une offrande de parfum devant le trône de Dieu. Alors ça nous appelle à être plus vigilants dans la prière, parce que pour Dieu, c'est quelque chose qui est essentiel, qui est quelque chose de principal dans notre marche avec lui. Donc c'est vraiment un encouragement de voir cette dimension. Voilà, donc on est parti donc du tabernacle, on arrive devant le trône de Dieu à la fin des temps, c'est une évolution magnifique. En conclusion, je dirais que le Seigneur nous aide dans notre vie de prière, notre consécration, afin de pouvoir dire comme le psalmiste, comme on l'a cité, « Que ma prière soit devant ta face comme l'encens, et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. » Qu'il nous aide aussi à refléter le Christ là où nous nous trouvons. Je terminerai par ce passage de 2 Corinthiens 2 qui parle d'odeur également. « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous, en tout lieu, l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres une odeur de vie, donnant la vie, et qui est suffisant pour ces choses. Que Dieu nous aide. Amen.